Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse de ce matin, différents usages de la parole.
Celle du président de la République. D'abord, le président a-t-il voulu rassurer ou mettre en garde? Vos journaux qui commentent son discours d'hier sur l'Europe à la Sorbonne n'ont pas tous entendu la même chose. Pour le Figaro comme pour la Croix, Emmanuel Macron dramatise les enjeux pour mobiliser son camp aux européennes. Libération préfère retenir les cartouches de Macron pour réarmer l'Europe et notamment l'idée d'un bouclier antimissile pour garantir la défense européenne. Faut-il un bouclier antimissile, se demande aussi le Parisien, avec en une photo du président le poing serré. Et pour les Échos, Macron prône des investissements massifs pour stopper le décrochage de l'Europe. C'est donc en même temps encourageant et alarmant.
Le chef de file du Rassemblement National pour les élections européennes, Jordan Bardella, a pris la parole pour lui répondre, mais il a refusé de répondre, lui, aux journalistes.
Il avait pourtant convoqué la presse pour répliquer à Emmanuel Macron. C'était le jour qu'il attendait le plus, explique le Parisien. Peu après le discours du président, Jordan Bardella a convoqué in extremis une conférence de presse pour présenter son programme et cibler un Macron érigé en cible fétiche et unique. Ces élections peuvent marquer un nouveau départ pour la France, a lancé Jordan Bardella avant son propre départ, car il a voulu éviter les questions de la presse. Le site de l'Express précise qu'auparavant, Jordan Bardella était déjà arrivé avec 20 minutes de retard pour réciter ses éléments de langage, et au bout de 25 minutes, la tête de liste du RN remballe ses fiches et tourne les talons en précisant « Je vous remercie et je vous laisse entre les mains expertes de notre directeur de campagne qui répondra, lui, à toutes vos questions. »
Ah ben voilà. Pendant ce temps, toute l'Espagne attend la parole de son Premier ministre.
La menace de démission de Pedro Sanchez ébranle l'Espagne, titre Les Échos. L'Espagne suspendue au vatou de Sanchez, écrit Libération. Le dirigeant socialiste annoncera lundi s'il reste ou non à la tête du gouvernement espagnol, alors qu'un juge a ouvert une enquête pour corruption contre son épouse, Begoña Gómez. « J'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir. Il me faut d'urgence répondre à la question de savoir si ça en vaut la peine », a dit Sanchez mercredi en dénonçant une attaque politique, parce que la plainte qui a déclenché l'enquête vient d'une association d'extrême droite. Alors, coup de blues ou coup tactique, la presse espagnole est partagée. Le site de Courrier International en livre une synthèse assez complète. Dans les Échos, on lit que l'association plaignante a commencé, elle, à rétropédaler en admettant qu'elle ne s'est fondée que sur des informations non vérifiées.
En Italie, la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati par la télévision publique continue d'exposer Giorgia Meloni aux critiques.
Je vous en parlais dès lundi. Le Figaro y revient ce matin sur une page entière avec une interview de Scurati lui-même qui analyse les raisons de son éviction et qui réplique aux arguments donnés par la RAI et par le gouvernement Meloni, qui l'accuse d'avoir demandé un cachet trop élevé pour l'émission. Le discrédit de l'intellectuel, dit-il, de l'intellectuel de gauche et plus encore du scientifique, est bien un trait de l'extrême droite et de son populisme. Il y a déjà eu beaucoup de cas de censure qui relève d'un projet culturel, celui d'utiliser la politique pour imposer une hégémonie culturelle. Plus que réhabiliter le fascisme, ceux qui sont au pouvoir en Italie veulent supprimer l'antifascisme des fondations de notre République. La censure, les poursuites judiciaires contre les journalistes, la barbarisation de la confrontation publique qui ne passe plus que par les attaques personnelles, tout cela indique que la détérioration de la démocratie est déjà là.
Un sujet sur lequel on a peut-être parler trop vite, l'explosion des cancers chez les jeunes. Le magazine L'Express corrige le tir.
Après l'annonce de la maladie de Kate Middleton, un oncologue américain cité par l'AFP est allé jusqu'à parler d'épidémie chez les moins de 50 ans. Pourtant, toutes les institutions chargées du suivi des cancers en France le démentent. Selon l'Express, tout est parti d'une étude britannique publiée en septembre 2023 et dont les chiffres ont été mal interprété. L'étude révélait que dans le monde, le nombre de tumeurs apparaissant avant 50 ans avait bondi de 79% en 30 ans. Sauf que la population a nettement augmenté dans la même période, ce qui fausse le calcul, écrit l'Express, et sans compter que les dépistages de plus en plus précoces permettent de détecter plus de cancers. C'est logique. L'Express montre que les courbes des différentes catégories d'âge se superposent presque exactement. Le cancer du sein augmente chez les jeunes, c'est vrai, mais il augmente autant chez les moins jeunes. Ce n'est pas vraiment rassurant, mais au moins on ne fait pas dire n'importe quoi aux chiffres.
Ça veut dire que si on suit les chiffres de ce cancérologue, quand la population mondiale diminuera, on dira « Ah bah les cancers diminuent chez les jeunes ».
Bah c'est possible.
Ah bah oui, bah il faut réapprendre le décryptage des statistiques. Pour finir, deux figures féminines dans la presse magazine. Et là encore, deux paroles très différentes. Rachida Dati et Julia Roberts.
La ministre de la Culture, Rachida Dati, est l'objet d'un amusant papier dans l'édition française de Vanity Fair. Le philosophe Olivier Pourriol analyse son franc-parler comme l'instrument d'une violence symbolique. Il rappelle les SMS en forme de missiles qu'elle envoie à tort et à travers et qu'elle assume sans chichi. Dati prétend s'inscrire dans une tradition populaire, écrit-il, celle du franc-parler révolutionnaire des premiers républicains de la Convention qui voyait dans l'insulte le signe de l'égalité nouvelle et le moyen de dénoncer l'ordre social. Titre de son article, de l'insulte considérée comme un des beaux-arts, et les beaux-arts pour le ministère de la Culture, c'est logique.
Avec Julia Roberts, c'est le registre exactement inverse.
L'actrice américaine est une star, une vraie, interviewée dans Madame Figaro. Elle a 56 ans, elle est toujours sublime, mais n'espérez ni punchline, ni révélation. Tout est entièrement contrôlé pour qu'on n'en sache pas plus à la fin qu'au début. Julia Roberts aime le repos. Son bijou préféré, c'est son alliance. Elle trouve que l'éducation des enfants, c'est important et qu'il est bon qu'on respecte la parole des femmes, à Hollywood bien sûr, mais aussi ailleurs. Ah, on apprend tout de même quelque chose. Julia Roberts a décidé de moins travailler, mais elle ne voit pas le temps passer. Mmh. « Il y a toujours beaucoup à faire dans une maison, dit-elle. Je vois mes amis, je promène mes trois chiens, je lis énormément et je tricote. » Oui, pendant que Rachida Dati lance des pics, Julia Roberts manie les aiguilles. Les photos de Madame Figaro prouvent qu'elle a toujours la plus belle bouche du monde. Mais l'interview montre qu'elle n'aime pas l'ouvrir à tort et à travers.
Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut pour le journaliste que vous êtes. Hervé Gattegno, la revue de presse que vous retrouverez dès 8h35, 8h32 lundi. Merci Hervé, très bon week-end.
Bon week-end à tous.
Nos esprits libres aujourd'hui, Jean-Marie Colombani et maître Sophie Obadia, c'est dans 2 minutes.